À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un des fondateurs de Montréal, très peu connu, c'est Gaston de Ranty. Bien qu'il y ait deux rues à Montréal, une à Saint-Léonard et une autre à Montréal, qui sont nommées en son honneur. L'une c'est Ranty et l'autre de Ranty. Et Gaston de Ranty est mort à 37 ans en 1649. Il a fait donc partie de la Société Notre-Dame, s'est occupé de la fondation de Montréal. C'est une grande figure spirituelle, surtout du 17e siècle. Très grande figure. Un laïc, un père de famille qui a eu plusieurs enfants. Il est issu d'ailleurs d'une ancienne famille noble d'Artois, en France. Il est né en 1611 au château de Béni, dans le diocèse de Bayeux, vous voyez, en Normandie. Là. Et il a fait montre, dès sa jeunesse, d'une piété, à partir de l'âge de 17 ans, sans qu'il se sépare du monde. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Il a été fervent jusqu'en son dernier souffle. En effet, il s'est proposé d'entrer chez les Chartreux à 17 ans, mais ses parents s'y sont opposés. Puis il a servi avec distinction dans des guerres du roi, Louis XIII, qui l'a honoré d'ailleurs de son estime. Puis il a épousé à l'âge de 22 ans seulement, Élisabeth de Balzac, comtesse de Graville. Comme vous voyez, il était de famille noble, mais il était de famille riche aussi. Son occupation principale, ça a toujours été de remplir ses devoirs de chef de famille, en vrai chrétien. Puis il a donné le spectacle à toute la société à l'époque de vertus extraordinaires. Et il était insensible à ses richesses, aux honneurs, aux plaisirs, à tout. Il n'aimait que Dieu et sa famille, et la société et les pauvres. Il a songé continuellement à servir Dieu. Puis à le faire servir aussi par ceux qui dépendaient de lui parce qu'il avait de grandes possessions, et surtout par ses enfants. Puis il est mort à Paris le 24 avril 1649. Il a été enterré dans un de ses domaines à Citry, dans le diocèse de Soissons. C'est le père de Saint-Jure, un jésuite qui était son directeur de conscience durant plusieurs années avant sa mort, qui a écrit sa vie. Alors, je vais m'en inspirer pour vous parler. Je vais m'inspirer aussi de sa correspondance grâce à un travail qui a été fait par Yves Chiron et paru aux éditions Résiac et qui s'intitule « Gaston de Ranty, une figure spirituelle du 17e siècle ». Dans la liste des rues de Montréal, on dit bien que l'avenue de Ranty a été nommée ainsi en l'honneur de Gaston Jean-Baptiste Baron de Ranty, membre de la Société Notre-Dame de Montréal, qui a existé de 1639, voyez-vous, à 1663, et Montréal a été fondée en 1642. C'était fondée en vue d'établir une colonie dans l'île de Montréal, c'est-à-dire Ville-Marie, et c'est pour ça que Radio Ville-Marie s'appelle ainsi. Alors on célèbre quelqu'un qui nous a donné un nom, au fond. On écrit de lui, c'est le père Cyprien de la Nativité de la Vierge, dans un recueil qui est paru en 1660, il a parlé de lui comme étant un homme incomparable, dont la vie et les vertus peuvent servir de lumière et d'instruction à tous les siècles. Il n'y va pas de main morte, comme vous voyez, on était enthousiasmé par lui. Et René de Voyer d'Argenson, dans les annales de la Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement était un mouvement qui n'a pas duré tellement longtemps, mais qui a été extrêmement important dans la réforme de l'Église catholique en France à cette époque. Et Gaston de Ranty en a été le président pendant 11 ans. Et alors, ce René de Voyer d'Argenson écrit qu'il pouvait, Gaston de Ranty, servir de modèle de piété à la noblesse de France, ou sans doute dans tous les états de sa vie. Il a laissé un merveilleux exemple de vertu que les personnes de qualité peuvent imiter. Mais qui est cet homme du 17e siècle, dont ses contemporains parlent avec tellement de louanges? Il s'agit de Gaston donc de Ranty, mort à 37 ans comme je vous ai dit, et dont l'activité de toutes sortes dans le monde a été accompagné rapidement d'une réputation de sainteté. Tout le monde le disait. Cette réputation s'est établie du fait qu'il a été supérieur, comme je vous ai dit, de la Compagnie du Saint-Sacrement, 11 fois, et aussi à cause de son action, écoutez bien, de directeur spirituel auprès de plusieurs laïcs importants, et même de quelques religieuses, dont des prieurs de carmélites. Absolument étonnant. Cette direction spirituelle qui était exercée, en somme, par un laïc, marié, avec des enfants, se fait surtout par un échange de lettres. Il était mandaté par un prêtre, son directeur. Plusieurs centaines de ces lettres nous sont parvenues. Ce sont de très belles lettres. Et c'est par cette correspondance, donc, qu'on peut, qui a été éditée en 1978, il y a 20 ans, qu'on peut se faire une idée de sa figure spirituelle en particulier. Il s'agit tout d'abord d'un jeune homme de famille noble, comme je vous ai dit, qui est converti par une lecture de l'Imitation de Jésus-Christ. C'est un laïc et père de famille qui est devenu directeur d'âme. Alors, on peut se demander quel rapport sa spiritualité entretient avec les différents courants spirituels très importants qui traversent cette époque en France. Je vous ai parlé de Bérulle, d'Ollier et d'autres. Ce sont des grands spirituels de l'école française, de spiritualité française. Et d'abord a-t-il, lui, une spiritualité propre, ce chrétien, converti à 17 ans par la lecture de l'Imitation, et bouleversé à 32 ans par la découverte d'une étrange dévotion, mais qui est très belle, finalement. Moi, personnellement, ça m'a fait sourire au début. C'est une dévotion à l'enfance du Christ. Ça lui a été enseigné par une petite visionnaire qui s'appelait Sœur Marguerite du Saint-Sacrement. En somme, cet homme qui est très actif sur le plan social et qui est très charitable est soutenu par une vie de raison très dense et une vie contemplative solide. Il médite justement sur cette enfance du Christ, mais c'est très beau sa façon de méditer. Je vous en parlerai tout à l'heure. En somme, de la quiétude de l'oraison jusqu'à tous ces secours qu'il a portés dans les taudis des faubourgs, en passant par les nombreuses lettres de direction spirituelle qu'il écrit, souvent la nuit, il n'y a pour Gaston de Renty aucune rupture. Pour lui, adorer la divinité dans ses mystères, comme le mystère de l'incarnation, quand il est bébé, enfant, et tout le reste, les mystères contemplés comme ça dans l'oraison, ou bien servir Jésus-Christ dans les pauvres, qu'il secourt, parce qu'il a le sens pour Jésus, c'est tout un. D'ailleurs, il suit la doctrine de Sainte Thérèse d'Avila, qui dit dans le chemin de la perfection, « Si contempler, faire oraison mentale ou vocale, soigner les malades, servir dans les emplois de la maison, se livrer aux travaux, même les plus vils, n'est autre chose que rendre ses devoirs à l'hôte divin qui vient loger, manger et se délasser avec nous, Dieu nous habite. Que nous importe, dit Thérèse d'Avila, de le servir d'une manière ou d'une autre? » Il ne s'agit pas, en somme, chez Gaston de Renty, d'une figure mineure de l'histoire de la spiritualité au XVIIe siècle, non, mais bien plutôt d'un de ces hommes qui, même s'il n'a rien découvert, s'il n'a rien innové, il a eu quand même un rôle important, quoique obscur, sur l'Église catholique de son temps. Et c'est en 1611, au château de Béni-Bocage, dans le Calvados, que sa mère, Madeleine de Pastoureau, épouse du marquis de Renty, le met au monde. Elle met au monde ce garçon. Et le père Saint-Jure raconte qu'elle l'a nommé Gaston. Il fut nourri, dit-il, en ce lieu jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, donc au château, et puis amené par madame sa mère à Paris, qui le tint auprès d'elle environ 2 ans jusqu'à ce qu'il fût mis au collège de Navarre, et de là envoyé à Caen, au collège des pères jésuites, d'où néanmoins, continue le père Saint-Jure, il fut tiré à l'âge de 17 ans et mis en l'académie à Paris, où il se rendit fort habile et très adroit en tous les exercices. Voici un résumé C'est à peu près tout ce qu'on sait de sa jeunesse. C'est avec une extrême concision que le Père Saint-Jure, ou Saint-Jury, si vous préférez, fait l'énumération des principales étapes de cette enfance, puis de la jeunesse de Gaston de Ranty. Il est très sobre. Ça vise à donner à tous les fidèles l'espèce de modèle d'un parfait chrétien. Et il laisse deviner que l'ouvrage qu'il entreprend n'est pas vraiment une biographie. Mais il veut surtout dresser le modèle réussi de la conversion d'un laïc. On peut se demander comment ça se fait qu'il est passé d'une jeunesse studieuse, ce Gaston de Ranty, une jeunesse plutôt dorée, à ce désir d'une grâce, nous explique d'ailleurs Gaston de Ranty dans une lettre, c'est ces mots, qui s'expose, une grâce qui s'expose à la folie de l'Évangile et au scandale de la croix. Ne voulant se déterminer à rien, mais étant déterminé, dit-il, à tout ce que Dieu montrera vivant en obéissance. Alors, comment tenir pour rien sa haute naissance, puis dire en confidence spirituelle ce qu'il écrit à Mère Élisabeth de l'Enfant Jésus, « J'aurais grande joie s'il m'était permis de m'en aller courir tout nu en chemise par les rues pour me faire mépriser et estimer pour un fou. » En somme, la découverte de l'imitation de Jésus-Christ, qui est le livre qui accompagne une grande partie des catholiques, est-ce que ça suffit? On va voir que non, un livre ne suffit pas à lui seul à bouleverser une vie et à engendrer une doctrine spirituelle. Il y a des événements, des rencontres aussi, qui peuvent bouleverser quelqu'un puis le structurer spirituellement. Alors de l'imitation, Gaston de Ranty va garder le radicalisme des résolutions. C'est un lecteur aussi de Sainte Thérèse d'Avila, mais il ne devient pas pour autant thérésien dans sa mystique. Il est dirigé par M. de Condran, le fameux de Condran, puis de Saint-Jury aussi. Mais il n'y aura pas une spiritualité qui dépend de ces hommes-là. En revanche, il assiste à une première grande retraite qu'on appelait des missions. Puis c'est la rencontre faite quelques années plus tard de Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est son action quotidienne, aussi au sein de la compagnie du Saint-Sacrement, qui va le transformer. Ça va le faire devenir spirituellement autre. Puis la première autorité à entrer dans le drame de la grâce puis de la foi que vit Gaston de Ranty, c'est donc, faut le reconnaître, ce livre, L'Imitation de Jésus-Christ, qui est un best-seller hors catégorie de toute littérature chrétienne après la Bible. C'est un ouvrage qui est à l'origine de nombreuses conversions. Mais Saint-Jury présente comme une conversion l'effet de grâce qu'a produit sur Gaston de Ranty, alors âgé de 17 ans. Cette lecture, et je vais vous raconter ça tout à l'heure, comment ça s'est produit, cette conversion avec l'imitation de Jésus-Christ, puis par après, la conversion avec la retraite, la mission qu'ont prêché des oratoriens, des prêtres fondés par Philippe Néri. Nous parlons aujourd'hui de Gaston de Ranty, un laïc mort à 37 ans comme un saint, père de famille, plusieurs enfants, homme riche, homme noble. Son directeur de conscience, le deuxième qu'il a eu, Saint-Jury, le père Saint-Jury, présente donc comme une conversion, il dit, l'effet de grâce qu'a produit sur Gaston de Ranty, alors âgé de 17 ans, la lecture de l'Imitation de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de l'Imitation de Jésus-Christ et de Thomas à Kempis le 19 décembre 1996. Ceux qui s'intéressent à ça peuvent se procurer la cassette, au numéro de téléphone que je donnerai à la fin de l'émission. Alors Saint-Jury écrit, le libraire chez qui Gaston de Ranty va souvent pour acheter des livres nécessaires à contenter sa curiosité et le désir ardent qu'il a de savoir toutes les sciences convenables à sa condition, lui présente un jour le livre si célèbre de l'Imitation de Jésus-Christ et le prix de le lire. L'effet de grâce que la lecture d'un tel livre produit en son âme est si grand qu'elle lui fait naître la pensée. Il l'allume dans son cœur, le désir de quitter tout à fait le monde et de se consacrer entièrement au service de Dieu et de se faire chartreux. La religion de l'imitation est une religion de la rigueur morale, personnalisée, où, malgré le titre, l'humanité de Jésus n'est pas vraiment considérée, le mystère de l'Église totalement ignoré aussi, puis le monde pas encore considéré comme un champ d'action et d'apostolat. C'est un livre qui est écrit finalement pour les moines ou pour ceux qui veulent entrer dans des monastères. Mais on peut le lire quand même avec un peu de sens commun. faut pas se laisser prendre par l'imitation d'une façon exagérée. Alors Gaston de Ranty, lui, découvre donc cette religion, ses exigences chrétiennes. Il n'entrevoit comme unique réponse à cette grâce reçue que le retrait du monde dans la solitude d'une chartreuse. Sa détermination est prise au terme d'un combat de 2 années et en décembre 1630, il quitte sans prévenir sa famille puis prend le chemin de Notre-Dame des Ardiliers où est entré, n'est-ce pas, Benoît-Joseph Labre pendant un certain temps. On a lu ça il y a quelques jours. Il écrit alors à son père une longue lettre pour expliquer sa décision. Pardon. Il écrit « Monsieur ». Il appelle son père « Monsieur ». C'était la coutume à l'époque chez les nobles. Après avoir combattu 2 ans contre moi-même et résisté à toutes les inspirations que Dieu a données pendant ce temps, j'étais enfin contraint de rompre à un si long délai pour quitter le monde. Avouant n'avoir pas encore assez de force pour entreprendre de faire mon salut en un lieu où se pratique le contraire de ce que je voudrais faire. Mais son père n'entend pas laisser son fils unique, l'héritier de toute sa fortune, se retirer ainsi du monde. Il l'envoie chercher à la chartreuse. On le ramène à Paris. Et pour le faire changer d'idée, il l'amène avec lui en Normandie, dans son fameux château du Béni, où Gaston est né. Et le jeune Gaston de Ranty semble s'accommoder de cette décision de son père, puisqu'il accepte, malgré son jeune âge, comme je vous ai dit au début, d'être parmi les représentants de la noblesse lors de d'une réunion en 1630 à Rouen des États de Normandie. Vous savez, il s'acclimate au monde. Il va se marier, comme vous savez, à 22 ans. Il s'y montre intéressé. On dit qu'à lors de cette réunion, où il est tout jeune, il parle bien, avec beaucoup de pertinence, de prudence, des affaires, que tous ces représentants des différentes grandes sociétés de France, ce qu'on appelle les 3 États, demeure non seulement satisfait, mais étonné. Et ensuite, il s'occupe à faire rebâtir l'église du Béni, l'église qui est près du château de son père, d'après un plan qu'il a lui-même tracé, puis il ne répugne pas à travailler avec les ouvriers, travailler avec ses mains. Est-ce qu'il a renoncé à son désir d'être religieux? Évidemment, puisqu'il accepte d'épouser, comme je vous ai dit, à 22 ans, en 1633, Elisabeth de Balzac. L'année précédente, le domaine de Citry-sur-Marne lui a été donné par ses parents, Citry, C-I-T-R-Y. Il y a de nouveaux devoirs qui vont le retenir désormais. 5 enfants. 4 survivent. Il ne renonce pas à paraître à la cour, à servir le roi dans l'armée, comme je vous ai dit. Pendant la guerre de Lorraine, en 1633, il commande une compagnie de cavalerie. La question de la possibilité du salut dans la condition de courtisan ne le quitte pourtant pas. Il fait penser un peu à ce banquier allemand dont je vous ai parlé il y a quelques mois, qui était un mystique. Vous vous souvenez? D'ailleurs, les jésuites et les capucins dans ces années-là en France rivalisent d'efforts pour essayer de dresser un type parfait de gentilhomme chrétien. C'est aussi au même moment que la compagnie du Saint-Sacrement, qui a été formée par un coup de, pour dire, de l'Esprit-Saint, pour être une espèce de surveillant perpétuel à tout ce qui se passe et qui peut faire la gloire de Dieu, comme disent les vieux textes de René de Voyer d'Argenson. Mais c'est surtout un lieu de sanctification que la Société du Saint-Sacrement, un lieu de sanctification dans le monde. Et le souci de Gaston de Ranty n'est pas nécessairement original et spécial. Beaucoup de gens pensent à ça à cette époque. Il y a 2 types d'attitudes qui semblent être possibles. Ne pas chercher à changer la cour, se contenter de s'y comporter autour du roi en gentilhomme chrétien, y faire le réformer, écrire Ranty, ou, dans une perspective de restauration catholique, réformer l'ensemble de la société, toutes les structures, en commençant par les hiérarchies. Et c'est cette seconde réponse que propose la Compagnie du Saint-Sacrement, et c'est pour ça qu'elle va être supprimée après quelques années. Ranty, d'autre part, sera appelé par son directeur de conscience à diriger lui-même spirituellement certaines âmes, et surtout par la correspondance. C'est rare pour un laïc. Le choc spirituel qui est déterminant donc dans la conversion de Ranty, c'est cette mission qu'il suit en 1639, une espèce de retraite là, près de Paris. Et cette mission détermine, au dire du biographe de Ranty, là, son changement entier. C'est une conversion totale. Il écrit, c'est en une mission que font les pères de l'oratoire, là, fondés par Saint-Philippe Néri, comme je vous ai dit, à 6 ou 7 lieues de Paris, où il va à pied, et où il fait sa confession générale avec tous les soins que prennent ceux qui la veulent faire très bonne. Puis il reçoit tant de grâce en cette vocation nouvelle qu'il marque ce temps comme le commencement de sa conversion entière à Dieu et de sa parfaite consécration à son service. Il prend ça au sérieux, comme vous voyez. Il veut être un saint. Au XVIIe siècle, les missions sont un des instruments privilégiés de la réforme catholique. On aurait peut-être besoin de ça ici. Adapté, évidemment. Sur un temps donné, j'explique là, ce qui se passe, sur un temps donné de quelques jours à quelques semaines et sur un espace déterminé, là, un village ou un groupe de paroisses dans la ville, on met en œuvre toutes les techniques d'appel à la conversion. Qu'est-ce qu'on fait? La prédication, évidemment, la confession, les dévotions comme l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet récité, sont autant d'occasions d'interpellation des cœurs et des consciences. Pour que les effets de cette mission, ou de cette retraite, si vous voulez, soient durables, l'intensité des exercices spirituels et des pratiques dévotionnelles est requise, évidemment, et tous les ordres religieux, les anciens, les nouveaux, du XVIIe siècle, ont utilisé cette forme d'apostolat. Et la mission qui a retourné Ranty, qui l'a converti, est prêchée par des oratoriens. Je vais vous parler de Saint-Philippe Néri, le fondateur des oratoriens, le 26 mai prochain. Puis il n'est pas impossible que ce soit là qu'il rencontre, ou du moins qu'on l'a envoyé au père Charles de Condran, qui va devenir son directeur spirituel jusqu'en 1641. Si certains thèmes à la Condran se retrouvent sous la plume de Ranty, c'est peut-être plus encore une grande liberté spirituelle qu'il a héritée de Condran, qui était un homme libre. Sur la question de la communion fréquente, mettons, oh, je pourrais vous lire un beau texte de Condran qu'il adresse à une personne du monde, une personne laïque, qui lui a fait part de ses scrupules à ce sujet. Ben, il lui dit, tiens, je vous lis un peu, « Vous ne sauriez vous donner à Dieu trop souvent. Pardon, nous sommes faibles sans lui, pour nous détacher de nous-mêmes, et le péché qui vit en nous ne cédera qu'à lui. La fréquente communion n'est à craindre que quand c'est la bonne opinion de nous-mêmes qui nous porte secrètement, l'estime cachée au fond de notre esprit, que nous valons mieux que les autres, puisque nous communions davantage. Car, lors, la vanité secrète et l'orgueil spirituel nous conduit et nous fait mésuser du sacrement. Mais, si nous n'en recherchons pas l'estime de nous-mêmes, ni notre propre satisfaction, et que ce soit pour Dieu, contre le péché et contre nous-mêmes, que nous communions, pour avoir plus de force à nous assujettir à Dieu et à le louer, et parce que nous ne sommes pas contents de nous et de nos œuvres, ce qui nous fait rechercher de les faire avec le Fils de Dieu, eh bien, nous n'avons pas tort d'aller à Jésus-Christ très souvent. En somme, il faut communier avec humilité pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il est question d'un laïc, Gaston de Ranty, qui s'est sanctifié en dépit du fait qu'il était riche, noble, il était marié, il avait des enfants, et il a eu une vie absolument admirable. Je vous disais que son directeur lui enseigner la liberté face à la communion, face à la vie spirituelle. Et Gaston de Ranty, dans ses lettres de direction spirituelle à la mère Élisabeth de la Trinité, une carmélite, une prière, qui était une âme tourmentée puis accablée de scrupules, il l'incite à la communion quotidienne et lui dit, d'une façon très simple, « Communiez tous les jours et donnez-vous à Dieu tout à fait. Il le faut et tout de bon. » Une autre fois, en des mots clairs et simples, encore une fois, il lui dit, il lui écrit, « Allez, allez hardiment à la Sainte Communion, ma mère, non par dignité, mais par nécessité. » En somme, le choc de la mission qu'il a suivie, là, les oratoriens, en 1639, lui a fait chercher et trouver une direction spirituelle auprès de Charles de Condran, mais aussi, ça l'a fait s'engager dans une voie de plus grand renoncement, le renoncement. Il se retire tout à fait finalement, comme dit, raconte le père de Saint-Juré, il raconte ça, je lis le texte du père Saint-Juré, son deuxième directeur, il se retire tout à fait de la cour du roi. Il dit adieu à tous les emplois de vanité et d'ambition pour ne plus s'occuper qu'à ceux qui peuvent glorifier Dieu et secourir le prochain. Renonce à toutes les visites de purs compliments et inutiles. Il prend à cœur l'exercice de l'oraison. Il dit pour cela tous les jours le grand office, se levant même la nuit pour réciter matine. Et après, il fait une heure de méditation, de sorte qu'il demeure toutes les nuits en prière 2 ou 3 heures, même dans la plus grande rigueur de l'hiver. Tous les jours, il fait 2 examens de sa conscience avec une exacte recherche de ses plus petits défauts. Il veut se connaître ses défauts, puis les corriger. Hein. Il fait un examen le matin, avant le dîner, et l'autre le soir. Et le Père Saint-Juré ajoute, il se confesse 2 fois la semaine et communie 3 ou 4. Il va 1 jour la semaine visiter et instruire les pauvres malades de l'Hôtel-Dieu. 1 autre ceux de sa paroisse. Il en donne 1 autre aux prisonniers. Et en d'autres, il se trouve à des assemblées de piété. À 19 ans, Gaston Dranty, converti de l'imitation, donc, voulait fuir le monde en se retirant dans une chartreuse. Et puis à 28 ans, marié, père de 4 enfants, vivant là, un second choc spirituel, donc né d'une participation à une mission, le fait s'engager dans un radicalisme évangélique. Alors, il y a sans doute mûrissement spirituel. Hein? Il pense désormais que toutes les conditions dans la vie sont des lieux de salut. On peut se sanctifier là où on est. Il écrit à l'une de ses dirigées laïques, « Votre vocation particulière, maintenant, c'est de n'en avoir point, de celle que la coutume de ce siècle détermine pour l'ordinaire. Mais votre vocation, c'est de chercher la perfection chrétienne dans votre état, ne rougissant pas de professer au milieu du monde l'honneur que vous portez à Jésus-Christ et à votre caractère, c'est-à-dire à votre état. Dieu ne veut-il point des serviteurs et des servantes partout? » Il y a un protestant, plusieurs années plus tard, en 1701, qui écrit une introduction à la réédition de l'ouvrage de Saint-Juré sur Gaston Dranty. Un protestant, oui, qui s'appelle Pierre Poiret. Il écrit ces 2 lignes assez surprenantes. « Ici, dans la vie de Gaston Dranty, tout est réel et pratique. Il n'y a rien de mort. Il n'y a rien de vraiment spéculatif. » Ce protestant-là admirait la spiritualité de Ranty. La source où Ranty puise sa science n'est pas livresque. D'accord, il a lu pas mal de livres quand même. Mais les rares citations qu'il fait dans ses lettres indiquent qu'il lit quelques classiques de la théologie. Le Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire, Sainte Catherine de Gênes, Sainte Thérèse d'Avila. Sa correspondance avec les carmélites de Beaune nous apprend qu'il n'hésite pas à leur recommander des ouvrages, même à les leur envoyer, hein, comme le Discours aux Vierges ou les Épîtres de Saint Ambroise, Une vie de Saint François de l'Enfant Jésus, les œuvres de Saint Thérèse d'Avila. Il écrit aussi 2 textes sur des mystiques contemporains, un sur Marie des Vallées, je vous prépare une émission sur elle, et l'autre qui est perdu sur le Père Surin, le fameux Père Surin, vous savez, puis la Mère Jeanne des Anges de Loudun. Une question de possession fausse, là. Faudrait que je vous raconte ça peut-être un jour. Il y a des gros livres là-dessus. Michel de Certeaux, le père Michel de Certeaux s'est penché beaucoup sur cette question. Dans son mémoire sur Marie des Vallées, Gaston Dranty établit des comparaisons entre les expériences qu'elle a vécues et celles d'autres mystiques féminines comme Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Gertrude, la bienheureuse Angèle de Foligno et Sainte Catherine de Gênes. Mais on peut dire que Dranty ne se fonde pas sur sa seule expérience spirituelle pour diriger d'autres âmes. Derrière son beau style, puis derrière l'équilibre doctrinal de ses textes, il y a un certain savoir. Bien évidemment, dans sa correspondance, il a souvent recours à la Bible comme appui de ses conseils à ses dirigés. Essentiellement, il se sert du Nouveau Testament et en particulier de Saint Paul. Mais la science de la mystique ou de la théologie, ça remplace pas ça l'expérience spirituelle. La connaissance de ce qu'on appelle en langage catholique ou chrétien les mystères divins, donc cette connaissance des mystères divins que Gaston Dranty, laïc, je vous le rappelle, a pu avoir et faire partager, a été acquise avant tout dans le creuset de l'oraison et de la prière. Il suffit pour s'en convaincre de lire le récit qu'il fait à son directeur vers 1645 d'une journée type. C'est incroyable. La journée est rythmée par des pratiques dévotionnelles précises. Je vous lis ça, c'est trop extraordinaire. Au lever, invocation du bon ange. L'ange gardien, quoi. De Saint Jean-Baptiste. Le cousin de Jésus. Très grand saint, précurseur, annonciateur et prédicateur violent. Donc, invocation du bon ange de Saint Jean-Baptiste et de Sainte Thérèse d'Avila. Récitation de l'Angélus, consécration à la Sainte Vierge devant son image à la chapelle, adoration de la Trinité, oraison et lecture tête nue, même s'il fait froid, de deux chapitres du Nouveau Testament, par respect pour la parole de Dieu. En fin de matinée, la messe, examen de conscience, et Angélus encore. À midi, dîner en silence avec lecture spirituelle. Il doit se faire la lecture par un de ses serviteurs, j'imagine, parce qu'il est riche. En fin d'après-midi, visite au Saint-Sacrement et une heure de raison. Souper, pendant lequel on lit le martyrologe et la vie du saint du lendemain. Après le souper, instruction spirituelle des enfants, parce qu'il est père de famille. Et enfin, de 21h à 22h, oraison. La vie spirituelle de Gaston de Ranty est aussi réglée que celle d'un religieux, si ce n'est qu'il a remplacé la récitation de la méditation de l'office divin et la méditation de l'office divin là, par des actes de dévotion de toutes sortes. Après le premier hommage donc de la journée à la Sainte Trinité, comme honorant deux aspects particuliers d'un unique mystère, Gaston de Ranty précise, il écrit ça, « Je me prosterne et j'adore le bénéfice de l'incarnation qui nous donne accès et nous réconcilie avec Dieu. » Gaston de Ranty a connu différentes expériences mystiques, mais il est très discret. Très discret là-dessus. On ne peut pas savoir. Dans sa façon de décrire sa journée type, il fait quelques confidences spirituelles. Il dit à un moment donné, « Je porte pour l'ordinaire en moi une vérité expérimentale et une plénitude de la présence de la très sainte Trinité. » On peut deviner, là. Lisons dans un des rares écrits personnels de Ranty qui nous soit parvenu, c'est la définition qu'il donne de l'oraison. C'est très beau. Cette oraison n'est point par raisonnement, ni par recherche, mais par un loyal amour qui tend toujours à donner plutôt qu'à recevoir. L'obscurité, dit Gaston de Ranty, de la foi, l'obscurité de la foi, est à l'âme plus certaine que toutes les lumières qu'elle peut avoir, et dont elle doit user avec respect et action de grâce, et non par complaisance ni par attache. Cette raison, dit-il, ne fait point mal à la tête, c'est un état de présence modeste, dans laquelle on se tient devant Dieu, attendant de son esprit ce qu'il lui plaira de mettre en nous, que nous recevons en simplicité et confiance, comme s'il nous parlait. Quelle belle explication. Gaston de Ranty, dans une logique catholique qui intègre les œuvres quand même dans la cause du salut et qui croit que nous serons jugés sur les effets et sur les œuvres, sur les actions, quoi. Il écrit avec assurance, si son texte, « Après avoir beaucoup joui de Dieu et goûté et écouté sa voix, il le faut aller servir, car c'est ici une vie d'action et d'œuvre, une vie de servitude. Il faut donc, dis-je, aller servir en nous et au prochain, qui sont les deux seuls objets d'indigence dans lesquels nous pouvons réparer son honneur méprisé, sa gloire déshonorée et son règne aboli par les injures qu'il y souffre, car il voit que Jésus souffre. Il est injurié dans le manque de soins que l'on accorde aux pauvres et dans le manque de soins que l'on accorde à soi-même, finalement, sur le plan spirituel. Il y a chez Ranty une sorte d'enthousiasme. Ça lui vient de la certitude, non de son salut, mais de l'existence d'une patrie naturelle, le lieu de réalisation de notre vocation et de notre aspiration tout ensemble. C'est quoi ça, ce lieu, cette patrie, c'est la divinisation. Cette certitude et quiétude, Ranty en a fait la confidence un jour, il dit « Je suis content, adorant et me soumettant à la volonté de Dieu. Je ne veux rien plus et ne travaillerai ni pour la consolation, ni pour la sécheresse. Je bénis mon Dieu en tout temps. Chérentine, cette indifférence par amour des desseins, des projets de Dieu s'exprime admirablement dans un acte d'anéantissement qui est écrit de son sang. Du 3 décembre 1644, il dit « Je vous donne ma liberté, ô mon Dieu, et je vous demande le néant, où il faut que le chrétien arrive pour surgir purement vers vous. » Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, le néant. C'est un néant avec un N majuscule. Faut faire attention. Ce qui différencie l'attitude, de toute façon, l'indifférence, là, de Ranty, avec l'indifférence des quiétistes, qui ont fait erreur à l'époque, c'est que pour ces derniers, les quiétistes, l'indifférence semble être une fin en soi. Pour eux, c'était la perfection de l'âme en contemplation. Mais chez Gaston de Ranty, c'est pas ça. L'indifférence est désirée et vécue, comment? Dans la contemplation, dans la méditation de la plénitude de Dieu. Mais elle est aussi le moteur de toutes les actions. C'est la façon de se sanctifier. La compagnie du Saint-Sacrement, dont il a été le dirigeant, c'était un de ces lieux, de ces structures qui ont permis aux volontés catholiques réformatrices, autant que restauratrices, de se réaliser. Gaston de Ranty en a été, comme je vous ai dit au début, le directeur 11 fois en 10 ans, soit à peu près le tiers de l'existence effective de cette compagnie qui était abolie en 1665, elle était apparue en 1630. L'importance de sa fonction au sein de la compagnie indique qu'il ne s'y est pas retrouvé par hasard et qu'il n'y est pas resté par convention sociale ou obligation plus ou moins dévotionnelle, c'est pas ça. Et on sait aussi combien l'histoire de la charité au XVIIe siècle est redevable à cette admirable compagnie du Saint-Sacrement. Elle est implantée dans une 50aine de villes de France, recrutant notamment des membres dans les élites, dans la hiérarchie ecclésiastique. Ça établit des réseaux efficaces. La Compagnie du Saint-Sacrement a pu coordonner les efforts, soutenir des entreprises, des initiatives chrétiennes à travers la France. Et pendant une 20aine d'années, la carte, on peut dire, des œuvres, des actions sociales de la Compagnie du Saint-Sacrement peut être exactement superposée à la carte des hauts lieux de la misère physique. Alors les hôpitaux, les galères, les missions extérieures ou intérieures, puis les pestes, les famines, les guerres. Ils ont ouvert l'hôpital général à Paris en 1653. Oh, ils ont ouvert le séminaire des missions étrangères, c'est eux qui ont fait ça. Hein? Alors on le voit, rien de ce qui peut contribuer à la gloire de Dieu, à l'amour du prochain, n'est étranger à Gaston de Ranty. Cette alliance du spirituel et du temporel renvoie sans cesse l'un à l'autre et ça séduit le bouillant Gaston de Ranty, ce saint inconnu. En 1649, il y a une guerre qu'on appelle la guerre de Paris, la première fronde. Et le père Saint-Jury, son directeur, nous décrit Gaston de Ranty comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il va acheter lui-même le pain pour les pauvres et le porte par les rues, et autant que ses forces lui peuvent permettre. Dès 1641, dans sa propre maison, je lis encore Saint-Juré, il a 30 ans et il donne à dîner à des pauvres, à des hommes, 2 en nombre, et au commencement, 2 jours la semaine, le mardi et le vendredi. Mais 5 ou 6 ans après, se trouvant accablé d'affaires pour le service de Dieu et du prochain, il réduit ses 2 jours à 1, ordinairement au jeudi, et pour 2 pauvres, et il en prend 3 parfois. Toutes ces œuvres d'Irantie, je supplie notre Seigneur qu'elles soient faites par et pour son amour. Il dit un jour, je me trouvais intérieurement inquiété par la dévotion de l'enfance de notre Seigneur, parce que mon esprit fut frappé de cette pensée que le chrétien doit regarder Jésus-Christ tout entier, depuis son incarnation jusqu'à l'état de sa gloire. Alors une lumière reçue après la communion apaise ses scrupules. Seul l'état de l'enfance est désirable, sainte et méritée, parce que Il nous met dans l'ignorance, dans la séparation et l'inapplication des choses de cette vie. Il nous tient dans un grand silence et enfin produit une vie de mort pour l'extérieur. Je m'explique. Il dit le but de la dévotion à l'enfance, c'est de devenir enfant de l'enfant Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas pour lui de mimer les postures physiques et les attitudes psychologiques de l'enfant Jésus, mais suivre le Fils dans sa filiation à l'égard du Père. Et c'est là qui est important, en commençant par le premier état de vie qui lui a plu d'assumer, l'enfance, libre à lui ensuite d'entraîner celui qui s'est ouvert à cette grâce de l'enfance vers d'autres états. Alors, il écrit dans une lettre à Mère Thérèse de Jésus Languet, « Il nous faudrait être configurés à lui en tous nos états. Mais celui de l'enfance est le fondement de tous les autres, c'est l'état permanent où il faut faire notre résidence et c'est à celui qui nous y met de nous faire passer par après partout où il lui plaît. » En somme, de grandir avec lui et d'atteindre cet état de résurrection intérieure. En somme, ce qui importe, c'est de vivre dans la sainteté du Christ. Sainteté qui s'est manifestée à toutes les étapes de sa vie, de la vie du Christ. Simplement, dans l'esprit de Ranty, sans doute l'état d'enfance est-il le plus accessible car le plus humble. Et comme l'apprentissage de l'humiliation nécessaire à la conformité au Christ, qui est la seule voie de divinisation, le Saint-Enfant Jésus devient alors archétype de toutes les voies de sanctification. Il écrit dans une lettre à Mère Élisabeth de la Trinité, « Nous adorons son extrême abaissement, sa soumission, et nous nous donnons à lui pour entrer dans l'esprit de son sacrifice où il s'offre sans cesse en s'y laissant conduire, avec son accroissement jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la mort et à la mort de la croix. » L'esprit d'enfance, en somme, c'est une attitude spirituelle qui considère aussi l'enfant Jésus comme soumis et dépendant de son Père. Il faut suivre, écrit-il, communauté de Carmélites, il faut suivre dans l'anéantissement et l'obéissance que le Saint-Enfant Jésus nous communique de sa crèche les ordres du Père Céleste. Ça semble un peu curieux, mais je voulais vous le dire parce que c'était assez important dans sa vie. En somme, pour lui, la démarche de l'homme vers Dieu peut être d'action de grâce pour ce qu'il est et qui lui vient de Dieu son Créateur. Mais surtout, elle devra être, la démarche de l'homme, une réponse aimante, humble et humiliée de ce qu'il n'est plus. Je répète parce que c'est le résumé de toute sa pensée. La démarche de l'homme vers Dieu peut être d'action de grâce pour ce qu'il est et qui lui vient de Dieu, son Créateur, mais surtout, elle devra être une réponse aimante, humble et humiliée de ce qu'il n'est plus. Il écrit aussi au Père Saint-Juré, son directeur, « Ayant confiance, foi et amour, je ne crains ni diable, ni enfer, ni toutes les inventions des hommes. Et je ne pense ni au ciel, ni à la terre, mais à faire en tout et partout la volonté de Dieu. » En somme, Gaston de Ranty croit possible la fidélité au précepte évangélique, être dans le monde comme n'en étant pas, être dans le monde sans être du monde. À l'abbaye Port-Royal, chez les jansénistes, là, on fuit le monde. Les solitaires de Port-Royal sont des gens qui demandent à Port-Royal de mépriser le monde et de vivre dans la retraite. Or, dans une époque de rapports nouveaux entre l'Église et la société civile, Gaston de Ranty et la Compagnie du Saint-Sacrement pratiquent une stratégie d'action, de mission, pourrait-on dire. Mais Port-Royal, c'est une stratégie de séparation, de résistance solitaire. Alors, comment et pourquoi la stratégie de la Compagnie, l'idéal de chrétienté de Gaston de Ranty et d'autres grandes figures spirituelles du XVIIe siècle, ont-ils été un échec? Comme je vous ai dit, ça a été supprimé. Voilà qui mériterait bien des développements. La dévotion de Ranty à la petite voix de Thérèse de Lisieux, finalement, C'est la même chose. C'est pas une continuité de doctrine. C'est une permanence. Ils se ressemblent beaucoup. Les sources sont différentes, évidemment. Thérèse de Lisieux, c'est les textes de la Bible, du Nouveau Testament. Ranty, ce sont des sources différentes. En somme, on doit le compter, ce Gaston de Ranty, parmi les produits les meilleurs d'un siècle de réforme catholique. Réforme restauratrice, c'est la Compagnie du Saint-Sacrement qui en est une des incarnations. L'ardeur qui animait ce Gaston de Ranty, mort à 37 ans, était celle qui recommande à la mère Élisabeth de la Trinité « L'Évangile et la vie de Jésus-Christ », écrit-il, « voilà notre viatique, l'Évangile et la vie de Jésus-Christ. Travaillez là, ma sœur, et croissez en la vue de Dieu. » C'était un excellent directeur laïque de conscience. Pérard, c'est extraordinaire. Quel homme admirable.